Film exceptionnel, dispositif exceptionnel. On est ce soir dans les bureaux de Warner Bros. Discovery France pour la sortie événement évidemment de Dune 2, mais pas seulement, pour parler en long, en large et en travers de leur actualité. C'est Opening Weekend et c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Opening Weekend, enregistré non pas depuis un cinéma, mais depuis une major française, enfin une major, en tout cas l'antenne française, une major américaine, à savoir Warner Bros. Discovery. On est ravi d'être avec Olivier Snanouj, le directeur de la distribution. Bonjour Olivier.
Bonjour Aurélien.
Merci beaucoup
de vous avoir ici.
Eh ben merci de nous accueillir. En plus, vous n'êtes pas venu seul, puisqu'une partie de votre équipe est présente ce soir. Je vais vous laisser vous présenter.
Bonsoir, bonjour. Je suis Marion Pistoresi et je suis en charge des activités marketing pour la France.
À vos côtés.
Bonjour, donc Lucie Grimont, responsable de la province.
Bonsoir, je suis Marlène Percheron, je suis programmatrice GRP et en charge des ventes internationales pour l'Afrique francophone.
Bonsoir à toutes les trois. Il y a aussi d'autres personnes autour de cette table qui ne se prononcent pas pour l'instant. Également à mes côtés, bien entendu, Max Marjolais. Salut Max.
Salut.
Et Charlotte Escolier. Salut Charlotte.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Je le disais, événement exceptionnel. Dans quelques jours maintenant, sortira le film que tout le monde attend en ce début d'année, pas seulement les spectateurs, mais aussi les exploitants et le reste de l'industrie, d'une partie 2. J'imagine, Olivier, que ce film, c'est un événement en soi, mais quelque chose de très fort pour Warner.
Oui, bien sûr, parce que d'abord, c'est la suite d'un énorme succès qui a été le premier Dune, qui, je le rappelle, est sorti dans un contexte très particulier. On sortait à peine du Covid. C'est l'époque aussi où les anciens dirigeants de Warner testaient la sortie simultanée sur la salle et la plateforme. Test qui a prouvé son échec et qui a été abandonné et qui au moins aura eu le mérite de montrer que ce n'était pas la bonne formule. Donc dans tout ce contexte-là, nous avions fait plus de 3 millions d'entrées en sortant, cas exceptionnel aussi de distribution internationale, 5 semaines avant les États-Unis, ce qui ne se fait jamais, je crois, nulle part. Et voilà, et ça avait été un grand succès. Et du coup, le film, la deuxième partie a pu être greenlightée avant même sa sortie américaine, ce qui était une sorte de reconnaissance du succès international du film, notamment européen. Et nous voilà 2 ans et demi plus tard, puisque Denis Villeneuve a travaillé vite. En réalité, il préparait déjà la deuxième partie pendant qu'on préparait la sortie de la première. Et il nous a livré, après le chef-d'œuvre qui était la première partie, je crois qu'on peut dire un encore plus grand chef-d'œuvre, c'est pas moi qui le dis, c'est tous ceux qui ont déjà eu la chance de voir le film, les premiers spectateurs, puisqu'il y a déjà eu quelques avant-premières en France et en Angleterre, et les retours sont unanimes et ils ne nous surprennent pas.
Eh bien écoutez, c'est une belle présentation effectivement de ce Dune, et c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'il a mis du temps à arriver ce remake, ce reboot de Dune, premier du nom, et la deuxième partie effectivement paraît arriver rapidement alors que c'est un film effectivement colossal, d'une durée d'ailleurs là aussi exceptionnelle. Peut-être un mot sur cette durée qui semble maintenant presque commune à tous les grands films, mais qui rappelle dans son ambition aussi celle de films de David Lean ou autre.
Alors, oui, la durée, c'est toujours un sujet, mais en fait, c'est très relatif, comme dirait notre ami Christopher Nolan, puisque il y a des films d'une heure et demie qui peuvent paraître très longs, et cas plus rare, il y a des films de 3 heures qui peuvent paraître assez courts. Et là, il ne fait pas que 3 heures, il fait 2h40 et quelques, mais je crois qu'il fait partie de la catégorie de ceux qui paraissent plus courts qu'ils ne sont réellement.
Alors moi, je voudrais avoir un peu le ressenti justement de celles qui sont à côté de vous ce soir. Du côté du marketing, ça fait quoi de travailler sur un film comme Dune et surtout aussi sur une suite aussi attendue que celle-ci?
Je dirais que c'est un confort incroyable hein, de travailler sur un film comme Dune. Denis nous parlait du film en disant le premier Dune était un appetizer. Et là, avec Dune 2, c'est le plat de résistance. Je ne sais pas s'il a dit ça au studio, d'ailleurs, avant de présenter Dune. Mais c'est, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est assez vrai. Et
je ne sais pas si on a le droit de dire qu'on a vu le film, surtout. C'est surtout ça. Maintenant, on a le droit de le dire. Alors donc, oui, autour de cette table, on a vu le film. Et on a même une surprise à vous réserver pour cette semaine, une énorme surprise. Mais ça, on y reviendra plus tard en fin d'émission.
Mais disons, c'est extrêmement vrai et c'est un confort incroyable. C'est-à-dire que dans le 2, il y a davantage d'enjeux, il y a davantage d'actions, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de trahison, il y a davantage d'enjeux politiques également. Et nous, ça nous sert énormément pour élargir notre cible et un peu prendre les enseignements, regarder là où sur le 1 on aurait pu faire mieux, puisqu'on travaille dans cette logique, on a fait 3 200 000 entrées, mais évidemment, on pense qu'on peut, il y a de la marge de progression, on peut faire mieux sur le 2, et donc c'est comme ça qu'on travaille, on va regarder là où peut-être on peut aller chercher davantage d'entrées. Donc typiquement, sur les moins de 25 ans, par exemple, je crois qu'on est à peu près à 30% de 15-25 ans, ce qui est au-dessus des normes. Mais si je regarde le chiffre de Joker, on a fait mieux sur Joker. Donc on se dit, bah, tiens, comment on va faire plus sur cette cible en particulier? On était très très fort sur Paris, donc le COEF Paris-Provence n'est pas énorme. Donc comment on peut faire pour aller davantage en profondeur? Et avec le film que livre Denis Villeneuve, je dirais pas que c'est facile, mais bon, on est quand même, on a tous les éléments entre nos mains en fait.
Côté programmation, est-ce que c'est aussi facile justement d'aller sur ce terrain de la suite? Dans un contexte, il faut quand même souligner, on y reviendra peut-être après, où il y a très peu de propositions américaines, où on ne cesse de dire depuis la fin d'année dernière que 2024 sera une année singulière, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Comment ça se passe côté prog?
Oh bah, je dirais un peu comme Marion, c'est très agréable de travailler sur ce genre de film. Les exploitants ont bien en tête l'avantage de travailler sur un 2, ce que représente le premier. Et voilà, et du coup, on a aussi la particularité d'avoir un film qui plaît très largement d'un point de vue public. Et du coup, c'est ce qui nous permet aussi d'aller toucher des salles généralistes comme des salles RSC, parce qu'on peut le rappeler, le premier était classé RSC aussi.
Et que celui-ci, pour l'instant, est en attente dans cette fameuse catégorie en attente, où on ne sait pas encore s'ils seront ou non à RSC, puisqu'on rappelle que seuls les films qui sont en compétition dans les festivals de catégorie A, vers Berlin, Venise ou Cannes, sont d'office classés à RSC. Les autres, c'est parfois un peu plus tard qu'on le découvre. Est-ce que vous avez pu montrer le film aux exploitants en amont? Est-ce que ça s'est fait tout de suite? Est-ce que c'est des choses qu'on peut dire? Je ne sais pas.
Oui, on a eu la chance de pouvoir le montrer, mais pas, pas très très en amont de la sortie. Et on a voulu le faire dans une très belle salle, parce que vu la qualité du film, ça nous semblait important de le montrer dans les meilleures conditions possibles. Et on a pu le montrer dans une salle Dolby. Ce qui rend le spectacle à l'échelle qu'il doit être.
Oui, et même cas assez exceptionnel, Denis Villeneuve est venu à Paris au mois de novembre avec 30 minutes d'image du film pour faire patienter un peu après le décalage du film. Je rappelle, le film devait à l'origine sortir le 1er novembre, mais comme on n'était pas sûr que le casse puisse assurer la promotion en raison des grèves à Hollywood, le studio avait préféré reporter la date, ce qui m'avait fait dire lors de ses présentations exploitants que d'une deuxième partie a réussi l'exploit d'être à la fois le film le plus attendu de 2023 et le film le plus attendu de 2024. Et les exploitants ont pu voir au mois de novembre ces 30 minutes d'images présentées par Denis Villeneuve. Je crois que ça a été un grand moment. Là aussi, c'était une surprise, la présence de Denis Villeneuve à cette convention Warner où il n'y avait que des exploitants. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans la presse.
Et eux n'en ont pas parlé non plus. Personne n'avait l'air d'en parler.
Non, signer des accords de confidentialité, comme il se doit, comme on le pratique dans nos studios, et ils s'y sont tenus, et ils ont raison. raison, parce que c'est comme ça qu'on peut recommencer ce genre d'opération et leur montrer des choses très exclusives, très en amont de la sortie des films.
Et justement, par rapport à ce décalage de la sortie, il y a quelque chose d'assez étonnant, mais assez admirable également, qui est que Warner semble être la major qui s'en sort le mieux, en tout cas sur la fin d'année et au travers des entrées de ce début d'année aussi, hein, puisque quand on regarde les entrées faites sur ce début d'année, vous êtes, sauf erreur de ma part, encore leader. Et on voit aussi des films qui arrivent là, on va en reparler juste après aussi, mais au-delà de Dune 2, il y a Godzilla X Kong, il y a derrière aussi un film français dont on va dire un mot. Enfin, j'ai l'impression, voilà, est-ce que je ne sais pas si c'est une anticipation ou est-ce que c'est une gestion du moment
Vous savez, on sait comment fonctionnent les cycles de production des films, c'est très complexe et c'est soumis à beaucoup d'aléas et d'effets de calendrier. Donc je ne sais pas si c'est une coïncidence. En tout cas, je crois aussi qu'on a vécu des années compliquées, tous. Oui. Hein. Il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi tout ce qui s'en est suivi. Avant le Covid, l'apparition des plateformes et la montée en puissance des plateformes a beaucoup bouleversé aussi la production, notamment américaine, ce qui fait que le nombre de films américains a considérablement baissé. Je rappelle que l'an dernier, seuls 81 films américains sont sortis, donc ce qui est très peu, ce qui ne les a pas empêchés de maintenir la part de marché à plus de 40%. Et je rappelle qu'avant le Covid, ils sortaient plutôt 130 films américains. Mmh. Bon, sur les 700 qui sortent en France sur une année, c'est déjà un nombre assez raisonnable, mais qui effectivement, ce peu de films a un poids très important dans la fréquentation française et donc dans le financement du cinéma français, puisque je rappelle que les films américains financent en grande partie le fonds de soutien du cinéma français, c'est le système de l'exception culturelle, et le fait qu'il y ait moins de films américains, clairement, on l'a vu, les 20 millions d'entrées qui nous manquaient l'an dernier pour faire 200 millions d'entrées, c'était un manque d'offres américaines. Et cette année, 2024, à cause des grèves, là aussi il y a eu beaucoup de reports, il se trouve que nous, Warner, on a repris un peu notre cycle de production depuis un moment, qu'on a pu, parce que la grève s'est arrêtée à temps et on a pu maintenir les sorties prévues en 2024, ce qui n'a pas été le cas de tous les studios. Et effectivement, il se trouve que sur le papier, on a un très très beau line-up qu'on a présenté à French Convention. On espère que ça se vérifiera tout au long de l'année. Et au moins, on peut être là au moins pour soutenir les salles aussi qui ont besoin de cette offre américaine.
En tout cas, sur l'année dernière, puisqu'il est encore temps de faire un petit bilan de 2023, évidemment, retenir le succès extraordinaire de Barbie. Je pense que même si on pouvait le voir haut, le voir à 6 millions d'entrées,
non,
c'était...
Personne ne pouvait prévoir ça, comme personne ne pouvait prévoir qu'il ferait 1,4 milliard de recettes.
C'est ça.
Dans le monde, franchement, on a multiplié par beaucoup nos objectifs initiaux partout dans le monde. C'est le principe d'un phénomène. Hein. On sentait qu'on avait un film très spécial. Marion pourra en parler parce que là aussi, j'aime à dire, parce que c'est surtout elle qui en a le crédit, mais que ce film, ça a été les Jeux Olympiques du marketing. Tout ce qui a été fait a été assez extraordinaire et avec une intensité rare. Mmh. Mais après, le phénomène, on ne le crée pas. Nous, on peut l'accompagner, l'amorcer, mais c'est le public qui s'en empare. Et quand vous avez des séances partout où les gens viennent habillés en rose, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Comme le phénomène Barbenheimer, dont vous avez beaucoup parlé à cette antenne, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer.
Non. D'ailleurs, la photo même qu'on avait faite avec Christina, qui n'est pas là ce soir, au 9h des Halles, et Xavier Albert n'était pas du tout prévu, je tiens à le rappeler. Parce que c'était un très beau moment. Et en plus, on s'était vu finalement peu de temps avant pour la question des 100 ans de Warner, qui était aussi une autre actualité de cet été précédent. 100 ans de Warner qui ont également très bien marché. Vous en parliez d'ailleurs à la French Convention, je crois, près de 800 000 entrées.
Oui, c'est formidable. Alors là, je dois dire, et je regarde Marlène aussi, parce que...
Elle va peut-être dire un petit mot, Marlène, on ne l'a pas encore entendu.
Pour toute l'équipe, ça a été, je crois qu'on ne se rend pas compte, ça a été un travail colossal. C'est-à-dire, nous avons ressorti 425 films. Là aussi, la formule, c'est de dire, c'est beaucoup plus facile de sortir un film sur 400 écrans que 400 films sur un écran.
Ouais.
Et c'est pas les gens de la programmation qui vous diront le contraire. Et au moins, la satisfaction de ce travail titanesque, c'est que le public a été au rendez-vous. Les exploitants ont été au rendez-vous, la presse a été au rendez-vous, tout le monde a été au rendez-vous, et on a amené un public notamment jeune, on l'a vu dans toutes les séances qu'on présentait, qui est venu voir des films vieux, plus ou moins anciens, des classiques, des films de catalogue, et c'est formidable parce que ça donne confiance en l'avenir du cinéma.
Est-ce que vous avez eu des témoignages d'exploitants ou des retours en tout cas sur ces programmations catalogues, Marlène ?
Je pense qu'ils étaient très contents d'avoir accès vraiment à un catalogue aussi large. Donc voilà, je pense que ça vraiment, ça leur a plu de pouvoir faire un peu à leur sauce, de choisir les films qui les intéressaient et pas forcément être limité sur un choix de film et que vraiment on leur ouvrait tout notre catalogue. Ce qui du coup était une très bonne idée. Après, au niveau du suivi logistique, on en a un peu plus souffert. C'était un peu plus compliqué. C'était une très bonne idée sur le papier, mais il fallait le mettre en place et pouvoir envoyer tous ces films. Donc voilà, eux étaient, je pense, très contents effectivement d'avoir accès à tous nos films.
Et il y a un film qui se détache en termes d'entrée ou de nombre de programmations
Je crois que les Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ça reste quand même toujours des
valeurs sûres.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est vrai que ça avait aussi c'était aussi l'occasion de programmer des films qui n'étaient plus du tout arrivés en salle depuis longtemps. Et d'ailleurs, nous, sur Débriefing, on en a relayé deux, hein, puisqu'on avait pu au hall présenter Batman de Tim Burton et Ready Player One. Vous pouvez toujours écouter le podcast s'il est toujours disponible. Voilà. Mais ce ne sont pas non plus les deux seuls succès à mettre au crédit de Warner l'année dernière, puisqu'on en parle peut-être un peu moins, mais mine de rien, En eau trouble avait fini à 1,7 million d'entrées, même un peu plus. Bernadette, là aussi...
En eau très trouble.
En eau très trouble, pardon. En eau très trouble. La suite d'En eau trouble, bien sûr, The Meg 2. L'Anon 2 avait fini à 1 200 000. Bernadette avait aussi créé la surprise côté film français, parce que faire 800 000 entrées sur un premier long métrage dans un contexte où les films français avaient du mal, justement, qui plus côté comédie à s'imposer, c'était loin d'être évident et c'était une très belle carrière en salle. Et puis une fin d'année assez exceptionnelle, il faut bien le dire, parce que je pense que peu d'exploitants là encore ou de gens du métier voyaient Wonka à 3,6 millions d'entrées, il est peut-être même un peu plus haut maintenant, et Aquaman plus de 2 millions d'entrées dans un contexte où les films de super-héros, on le sait, ont plus de mal à fonctionner aujourd'hui. Là aussi, j'imagine que ce sont deux belles satisfactions, Aquaman et Wonka.
Ah oui, complètement. Disons que Wonka, nous, on l'a vu arriver. Alors évidemment, peut-être pas, on n'aurait peut-être pas pensé qu'il ferait autant d'entrées, mais on a eu la chance de pouvoir voir le film assez tôt. Et on sait que les comédies musicales sont un challenge en France, hein, enfin, celle qui, en tout cas, se rapproche plus de Broadway que de La La Land. C'est vrai qu'on... Mais en même temps, on a vu un film absolument merveilleux dont on était sûr qu'il pouvait plaire au public. Donc, je presserai peut-être la parole à Marion, mais toute la stratégie, ça a été justement de masquer un peu le côté comédie musicale, sachant qu'une fois que le public serait là, il verrait le film et finalement il l'aimerait, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà.
Donc, oui. Marion, un petit mot peut-être justement sur cette campagne qui a aussi permis de mettre en valeur Timothée Chalamet, de renforcer son statut de superstar qu'il est devenu aujourd'hui à l'aube de la sortie de Dune 2.
Oui, alors pour revenir sur ce que disait Olivier, c'est vrai que quand on a vu le film, moi je suis pas une grande fan par exemple de comédie musicale, et j'étais pas la seule dans la pièce, personne n'a été gêné par cet aspect, donc on est vraiment allé au-delà. En fait, c'est vrai qu'il y a des scènes, il y a des tableaux musicaux à certains moments du film, mais on pensait pas que c'était un obstacle pour le succès du film. Donc nous, ce qu'on voyait, c'est vraiment un film très familial qui pouvait vraiment plaire à tout le monde. Et l'enjeu pour nous, c'était comment on arrive à avoir les jeunes, encore une fois, les 15-24. On s'est dit, si on arrive à avoir cette typologie de cible, finalement, on aura toutes les autres. Et donc, si vous l'avez dit, Timothée Chalamet, c'était un des outils, en fait, un des outils pour actionner cette cible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait venir en France. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'était...
C'était déjà important, surtout qu'il parle français.
C'était pas mal de l'avoir en France, vraiment, pour qu'il a pas mal bossé, il a fait pas mal d'activités, et ça nous a permis, justement, de sécuriser cette cible.
Très bien. Et alors, on va revenir évidemment sur les autres films qui s'annoncent là pour 2024 dans quelques instants. Mais il est temps d'abord d'aborder la partie internationale du box-office parce qu'il s'est passé des choses quand même ce week-end. On va en discuter avec Max. Max, est-ce que ça a un peu réagi? Parce qu'on se souvient qu'on avait laissé le box-office US la semaine dernière dans une mauvaise posture.
Ouais, bah c'est pas fou cette semaine non plus, malgré deux sorties importantes.
On sent qu'on attend d'une deux encore.
Ah ouais, on sent qu'on attend d'une deux et on sent que, bah on sent que le marché US, il a du mal à se réveiller en fait depuis Noël. Donc là, le leader sur le marché US, c'est Bob Marley One Love. On va voir que c'est un petit peu pareil qu'en France. Et en deuxième position, c'est Madame Web. Bob Marley, il ouvre. Il ouvre sur 47 territoires. Le film, il est premier sur 13 des marchés où il a ouvert. Et sur le marché US, il est comparable au démarrage de Bohemian Rhapsody et de A Star Is Born. Les deux films avaient dépassé les 200 millions de dollars. Donc c'est quand même un très bon démarrage. Après, il faut avoir, c'est des films qui avaient une excellente tenue. Donc on va voir si c'est le cas pour Bob Marley aussi, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite.
En tout cas, c'était une belle surprise. Je pense qu'il n'était peut-être pas attendu aussi haut partout dans le monde. C'était quand même un... Bon, il y avait des enjeux, mais ce n'était pas dit qu'il soit à ce niveau-là.
Non, il n'était pas attendu aussi haut partout dans le monde. Et on peut noter l'info, en Jamaïque, c'est le plus gros démarrage de tous les temps.
Eh ben voilà, ça c'est de l'info comme on les aime. Voilà. Côté US, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à retenir de ce...
Il y a un autre petit démarrage quand même, il y a un film de super-héros qui est sorti ce week-end.
Ah bon, je vois pas de quoi tu veux parler, de Madame Web peut-être.
Madame Web, absolument, qui a été sorti par Sony, donc qui ouvre avec 23 millions de dollars sur le marché US. Là, c'est un petit peu en demi-teinte. Hein. On est juste en dessous de Blue Beetle qui démarrait 7% plus haut. On est en dessous de The Marvels qui démarrait 49% plus haut. On est un petit peu au-dessus de Don't Worry Darling qui démarrait. On est à plus 21% pardon, par rapport à Don't Worry Darling. Et on est un tiers plus haut que le démarrage de Argyle il y a deux semaines, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est plutôt mou pour le film Marvel qui a des critiques assez désastreuses aussi depuis sa sortie.
Très bien. Bon, et côté international, alors est-ce que c'est toujours la Chine qui domine les débats?
C'est complètement la Chine qui domine les débats, mais il y a même pas de débat à ce niveau-là. C'est toujours, comme on l'a rappelé la semaine dernière, c'était le Nouvel An chinois, donc une période où le marché chinois est très très fort. Il y avait 5 nouvelles sorties chinoises dans le top 10 mondial la semaine dernière. Cette semaine, il y en a 4, qui sont toutes les 4 en continuation. Donc c'est YOLO qui est toujours leader, Pegasus 2 qui est toujours en deuxième position, Article 20 qui est passé en troisième position alors qu'il était quatrième la semaine dernière, et Bunny Bears Time Twist qui est passé cinquième. Il a perdu quelques places, probablement parce que les enfants ont dû rentrer à l'école après une semaine.
Quatre films chinois dans le top 5 monde, hein, quatre films dont vous n'avez certainement pas entendu parler, ou en tout cas très peu. Et d'ailleurs, tu avais une petite stat à ce sujet.
Ouais, bah, ça m'a fait prendre un petit peu de recul sur le niveau du marché français par rapport et le poids du marché français dans le monde, et si on le compare par exemple au marché chinois. Alors j'ai deux petites informations. La première, c'est que cette semaine, en Chine, il y a trois films différents qui étaient en S2 et qui ont généré plus de revenus sur leur S2 que le plus gros succès de 2023 sur toute sa carrière en France. C'est-à-dire Super Mario, qui est le plus gros succès de 2023 en France, a généré à peu près 60 millions de dollars. Et cette semaine,
en France, hein, bien sûr.
En France, oui. Et cette semaine, sur le marché chinois, YOLO, en deuxième semaine, génère 84 millions de dollars. Pegasus 2 génère 79 millions de dollars. Mmh. Et Article 20 génère 68 millions de dollars.
C'est fou.
C'est fou. Et on peut noter aussi que les 4 films qui sont dans le top 10 cette semaine, donc les 3 que je viens de citer, et Bunny Bears Time Twist, à eux 3, ils ont généré en deux semaines à peu près 75% des revenus totaux du marché français de 2023.
Ah, un commentaire, Olivier, j'ai l'impression que...
Non, je rappelle juste qu'il y a une petite différence de population entre la Chine et la France.
Effectivement.
Mais alors, mais énorme différence de population.
Bien entendu, tout comme entre la France et les États-Unis aussi. Et mais c'est juste pour avoir des ordres de grandeur, effectivement, de ces succès colossaux qui, mine de rien, des films qui font des démarrages tonitruants au niveau, voire plus, de la plupart des blockbusters sortis récemment. Donc,
ça remet en perspective, et moi je trouve que ça incite aussi à être plus compréhensif quand on voit qu'il y a rarement des films français qui sont dans le top 10 international. Quand il y a un film français dans le top 10 international, c'est vraiment un exploit, surtout quand on regarde ça éclairé par ces chiffres-là, je trouve.
Alors, il y a quand même Migration qui a été en partie, enfin qui a été fait par un Français qui arrive à la 9e place. C'est pas rien. Il est encore en tout cas dans ce top 10.
Pour
après,
le reste du top 10 mondial, voilà. En effet, on a Bob Marley One Love, donc qui a ouvert sur 48 pays et qui génère au cumul 74 millions de dollars.
À la quatrième place.
À la quatrième place, exactement. En sixième position, on a Madame Web avec 49 millions de dollars générés. Et ensuite, en septième position, on a un film japonais. Donc vraiment, là, sur les sept premiers films, on a eu deux films US seulement. Donc le film japonais s'appelle Haiku the Movie Decisive Battle at the Garbage Dump.
Il n'y a qu'ici que vous entendrez ce nom, ce titre.
Qui a généré 15 millions de dollars sur le marché japonais uniquement. En huitième position, c'est Wonka qui perd une place et qui génère 11 millions de dollars de plus. Il est à 600 millions de dollars sur sa carrière totale worldwide. En neuvième position, on a Migration qui ajoute 10 millions de dollars à son cumul et qui a quasiment 255 millions de dollars de recettes au total. Et en dixième place, c'est Anyone But You qui perd 4 places après la Saint-Valentin et qui est à un cumul de 188 millions de dollars au worldwide.
Ce qui est quand même colossal pour une comédie romantique. Et je précise tout de même, parce que c'est toujours une lecture de ce box-office, que si on parle uniquement en termes de cumul worldwide, le numéro 1 reste Wonka avec 604 millions de dollars de recettes worldwide.
Il est un peu remonté cette semaine parce qu'il est sorti en Corée, en fait. D'accord. Et qu'il a eu un très beau démarrage. Un peu comme partout.
Très bien, ça c'est une information aussi importante. Une petite intervention côté programmation.
Oui, sur Anyone But You, parce qu'en fait j'ai vraiment adoré le film, j'adore les comédies romantiques.
D'accord.
Et je suis contente de voir qu'il a ce qu'il mérite en fait. Il a des bons chiffres, des bonnes entrées, et c'est très mérité.
Est-ce que tu fais partie de celles ou ceux qui ont publié des choses sur TikTok pour marquer leur...
Je suis trop âgée, du coup je n'ai pas TikTok.
Et le film a dépassé Ticket to Paradise cette semaine au cumul mondial et en France.
Très bien, voilà, je crois qu'on a été complet. Effectivement, tout ça est encore en suspens et va certainement bouger avec la sortie de Dune 2. Alors, est-ce que d'ailleurs c'est une sortie mondiale? Est-ce que la France est le premier territoire à sortir?
Oui, comme d'habitude, hein, quand tout le monde sort sur le même week-end, c'est-à-dire que les États-Unis sortent le vendredi 1er mars. Je crois qu'on est le principal territoire à sortir le mercredi. Il y a d'autres petits territoires, notamment asiatiques, qui sortent traditionnellement le mercredi avec nous. La Belgique, évidemment. Et puis le reste sort entre le jeudi et le vendredi, quoi.
Très bien. Bon, bah écoutez, on va voir, ce sera toujours... Et ça fait du coup du 9h DL la première séance nationale, en tout cas référencée sur le film.
Oui, comme quand on a une grande sortie importante, comme ça, le mercredi, et qu'on est les premiers, on est toujours très regardé le premier jour, et puis après... la pression passe sur d'autres territoires.
Et est-ce qu'il y a d'autres avant-premières, est-ce qu'il y a des avant-premières en dehors de l'avant-première officielle qui a été grandiose et la semaine dernière? Est-ce qu'il y a d'autres avant-premières de prévues?
Oui, on va avoir un grand programme d'avant-première le mardi soir, donc un peu partout, je pense. Hein, Lucie peut confirmer, mais voilà.
Je confirme.
Voilà. D'accord, donc sur plus de près de 1000 écrans, quoi, j'imagine. Enfin, en tout cas,
peut-être
de...
pas 1000,
non, peut-être pas 1000 parce que ça fait en tout cas 600, 700 copies.
Plus de 800,
quoi.
Oui.
Très bien, très bien. Alors, je le disais, il y a quelques semaines, donc avait lieu la French Convention. Vous avez présenté là-bas pas mal d'images de vos films à venir, au-delà de Dune partie 2. Il y a ce film qui était aussi présenté à l'Alpe d'Huez en début d'année, heureux gagnant, film français. On rappelle que le dernier film français que vous avez sorti, c'était donc Bernadette avec un certain succès. Et là, celui-ci, vous avez présenté carrément un sketch, parce que c'est un entre guillemets film à sketch, à l'image des Nouveaux Sauvages, réalisé par Damien Cifron il y a quelques temps. Sketch très efficace, je dois le reconnaître, qui donne envie de voir la suite. Racontez-nous un petit peu comment est née cette aventure.
Mais effectivement, c'est Renaud Chélélékian qui est le producteur, et Maxime Govard, Romain Chouet, les réalisateurs, qui étaient tous impliqués dans les crevettes pailletées, qui sont venus nous voir et nous ont proposé ce projet. Alors oui, le terme film à sketch fait toujours un peu peur, c'est un peu comme comédie musicale, c'est pour ça qu'on essaye pas le mettre trop en avant. Ce sont plusieurs histoires avec un thème commun qui sont les gagnants au loto et comment en réalité ce qui pourrait apparaître comme une bénédiction se révèle en fait être une malédiction, et c'est de l'humour noir, et ça nous a effectivement rappelé un film qui est cher à notre cœur ici, qui est Les Nouveaux Sauvages, que nous avions eu la chance de distribuer il y a une dizaine d'années, et c'est un peu le même esprit, quoi.
Et complètement,
voilà, à la française.
C'est
voilà.
Ça, avec
sur un thème qui parle à tout le monde, puisque tout le monde rêve de gagner au loto, tout le monde se fantasme sur ce qu'il ferait s'il gagnait au loto, mais en réalité, c'est pas toujours facile à gérer, comme on le sait. Et là, évidemment, on est dans des situations un peu poussées à l'extrême, puisqu'on est dans de la comédie noire, mais très grand public, avec un beau casting. Et effectivement, on a révélé la première histoire, il y en a 5, voilà, et tous ceux qui ont vu le film jusqu'à présent, notamment l'Alpe d'Huez et la presse aussi, l'accueille très très bien, donc on a beaucoup d'espoir pour ce film sur une date de sortie qu'on aime bien aussi, qui est le mois de mars,
13 mars.
Je rappelle qu'on avait sorti Sage-Homme l'an dernier aussi, qui était un film un très beau film, mais qui n'était pas évident commercialement et qui avait fait plus de 600 000 entrées,
qui a lancé la période rose de Warner en
absolument, ouais. Absolument. Et cette période rose nous a beaucoup réussi.
Trois films, on rappelle, Sage-Homme, Barbie et Bernadette.
Je rappelle aussi que l'an dernier, nous avons sorti trois films français réalisés tous les trois par des femmes. Ce qui est aussi, ce qui n'était pas un plan en soi, mais ce qui est une fierté.
Et surtout, réussir à faire 628 000 entrées sur Sage-Homme, enfin, faut quand même le rappeler, c'est pas non plus anodin.
Non, voilà. C'est un très beau succès. Je le dis souvent, c'est toujours, vous parlez de chiffres, des films, c'est toujours très difficile à analyser les chiffres. Et en fait, il n'y a que nous, les distributeurs de nos propres films, qui savons vraiment si un film est un succès ou pas, parce que nous savons quels sont nos enjeux financiers sur un film. Et à la fois, on peut avoir un succès, un très gros succès à 600 000 entrées et un très gros échec à 2 millions d'entrées. Tout dépend de l'économie qu'il y a autour d'un film. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est bien d'essayer de bien toujours remettre en perspective.
Exactement, c'est le but aussi de cet échange.
Absolument.
Et cet échange hebdomadaire que vous suivez avec attention tous derrière votre casque. Donc ça, ce sera début mars, donc 13 mars, Eurogagnant. Godzilla X Kong, je ne sais pas comment on dit, le nouvel empire.
Godzilla et Kong.
Et Kong, en fait. Voilà, Godzilla contre Kong, je ne sais pas.
Il faut voir le film.
Voilà. Le 3 avril, là, la bande-annonce est déjà en salle et je crois que ce sera aussi un événement. Alors d'ailleurs, comment vous analysez... Il y a une hype autour de Godzilla en ce moment, on a vu avec Godzilla Minus One et d'autres films. Vous pensez que ça peut servir le film, justement ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a eu une rencontre entre Adam Wingard, le réalisateur de Godzilla et Kong, et le réalisateur de Godzilla Minus One. Je crois que ça va être plus ou moins mis en ligne à un moment. Mais effectivement, on est dans ces univers. D'abord, D'abord, toute la culture qui vient un peu du Japon, et qui est très populaire, que ce soit entre les mangas, les animés, etc. Bon, évidemment, Godzilla et Kong sont deux personnages mythiques de la mythologie des monstres au cinéma. Et je dirais que, quelque part aussi, Kong est un personnage culte et plutôt le personnage auquel on s'attache le plus, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, le plus gros succès qu'on a eu dans cette franchise, c'est Kong Skull Island. Ouais. Et là aussi, le film met beaucoup en avant le personnage de Kong, parce que c'est autour de lui que tourne toute cette histoire. Et on va voir qu'il est, quelque part, toujours très attachant, quoi.
D'accord.
dans un film extrêmement spectaculaire et explosif.
En tout cas, ce sera l'un des seuls gros blockbusters à sortir à cette période, en réalité, parce que y a pas, on le disait tout à l'heure, pour l'instant, en tout cas dans ce début d'année, beaucoup de concurrence sur ce terrain. C'est aussi un avantage non négligeable.
Absolument.
Et puis après, eh bien, on va peut-être pas non plus énumérer tout ce qui arrive, mais citer quand même évidemment Challengers, dont on a vu des images qui semblent assez prometteurs hein, sur le milieu du tennis, avec une sorte de liaison dangereuse dans le milieu du tennis,
oui,
je ne sais pas comment on peut dire ça.
En fait, le tennis sert de décor, mais c'est surtout, pour nous, c'est plus un Jules et Jim moderne.
C'est ça.
Et d'ailleurs, le film est produit par Zendaya.
Ouais.
Il est réalisé par Luca Guadagnino, donc le réalisateur de Call Me By Your Name, de Bones and All, dans lequel avait joué Timothée Chalamet, qui est un réalisateur qui fait des films comme on n'en fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire des films un peu sulfureux, un peu sexy, un peu...
Ouais.
Voilà. Et c'est bien de revenir à ce cinéma-là avec des jeunes comédiens très, eux-mêmes très sexy.
À mon avis, on en reparlera de ce Challengers. Évidemment, on reparlera aussi de Furiosa, qui là est attendu pour le mois de mai, mais je ne vais pas vous en demander trop, parce que là aussi on est dans le secret, si ce n'est que c'est là aussi un film très attendu, suite de Mad Max bien sûr, et puis cet été une suite qu'on n'attendait plus, je l'avoue, moi c'est un film qui m'est très cher, c'est le premier Twister qui revient avec Twisters, suite et reboot en même temps, je ne sais pas trop, enfin en tout cas on a vu des premières images à tout récemment qui sont sorties sur le net, et ce sera l'un des événements de cet été avant une rentrée notamment marquée par Beetlejuice 2, mais j'en oublie évidemment entre deux.
Il s'appelle désormais Beetlejuice. C'est
voilà.
Le titre
définitif. Beetlejuice. Et qui sera un événement là aussi, parce que retour à une franchise et à, en tout cas un titre que beaucoup connaissaient dans leur enfance ou dans leur adolescence, ou il y a longtemps en tout cas. Et puis, bien sûr aussi, l'arrivée d'un grand cinéaste comme M. Night Shyamalan chez vous, ce sera pour cet été, qui n'arrive pas seul, je crois d'ailleurs.
Non, il arrive avec toute sa famille. Et parce que c'est une entreprise familiale, et donc on peut en rigoler, mais c'est très sérieux. D'abord, on est très heureux de ce partenariat. C'est vraiment un cinéaste qui nous a vraiment emmené sur des chemins très nouveaux dans le cinéma, et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à raconter. Et puis sa fille Ishana, qui est une jeune réalisatrice qui l'accompagne déjà depuis un moment, elle a réalisé les épisodes de sa série The Servant sur Apple TV+, elle a été réalisatrice seconde équipe sur ses précédents films, et on a eu l'occasion de la rencontrer. Les chiens ne font pas des chats, hein. Elle a l'air d'avoir hérité le talent et aussi les goûts de son père, puisqu'on va avoir un film très étrange avec Watchers, les guetteurs, je crois, le titre français maintenant.
Qui sortira, lui, au début de l'été. Hein,
qui sortira au début de l'été. Voilà.
En tout cas, une belle année 2024, ouais. Qui sera aussi marquée par la suite de Joker à la fin d'année. Aussi un autre film français adapté d'un best-seller, enfin, Leurs enfants après
eux. Leurs enfants après eux, c'est vraiment pour nous un des grands événements de l'année. C'est vraiment un film très ambitieux, réalisé par deux jeunes réalisateurs qui ont un talent incroyable, et je crois que certains cinéphiles connaissent déjà les frères Boukherma.
Connaissez, vous qui nous suivez sur DB Film, parce qu'on les a déjà interviewés à deux reprises, hein, Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma. Donc voilà, c'est vrai qu'on les avait suivis notamment sur l'année du requin.
Oui.
Et voilà, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce film, avec ce livre.
Alors déjà, ils ont fait une adaptation de ce prix Goncourt 2018 de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui a bluffé déjà l'auteur, ce qui est déjà un exploit en soi, parce que les adaptations sont toujours un challenge. Et puis, je crois qu'en tant que réalisateur aussi, ils vont épater beaucoup de monde. Le film est produit par Alain Attal, qu'on entend dans votre générique à chaque fois que je l'entends.
Qui était à notre micro mercredi dernier pour la sortie de Vivant, dont on va reparler dans quelques instants.
Par Alain Attal et Hugo Sélignac, qui sont toujours deux producteurs très, très, avec une actualité très forte.
Exactement.
Et on va retrouver à la fois des jeunes acteurs, je pense qu'on va voir beaucoup dans les prochaines années, notamment Paul Kircher, qui est déjà assez bien lancé. Angelina Vorette, qu'on va découvrir, et puis des acteurs plus confirmés comme Gilles Lellouche ou Ludivine Sagné.
En tout cas, ça fait un très beau casting, une très belle promesse pour cette fin d'année dont on reparlera peut-être d'ici là. Un mot avant de passer au box-office France, juste pour revenir quand même sur Dune, peut-être aussi, on n'a pas évoqué les formats spéciaux, est-ce que quelqu'un veut bien parler de cette donnée non négligeable, puisque le film, je crois, a été fait pour l'IMAX, ou en tout cas tourné en IMAX.
Oui, oui, absolument. Le film a été tourné en IMAX et on a tous les formats spéciaux disponibles sur le film, que ce soit les formats IMAX, on l'a évoqué, Dolby, toutes les 4D, parce que maintenant il y en a beaucoup, et la ICE, bien sûr, et la ScreenX aussi, qui n'était pas disponible sur le premier, mais qui est disponible sur celui-ci.
Et si je pose cette question-là, c'est pour aussi faire un petit teasing par rapport à quelque chose qu'on a eu, je le disais, l'honneur d'avoir sur Débris Film. C'est un entretien avec Denis Villeneuve et on lui a posé justement la question de les meilleures conditions pour voir le film. Quelles étaient-elles? Eh bien, on vous laisse écouter ce petit avant-goût de l'interview qui sera en ligne d'ici quelques jours.
J'imagine que vous avez vu beaucoup de salles de cinéma dans votre vie en parcourant de pays en pays. Mais alors, quelle serait la meilleure salle de cinéma pour vous pour découvrir Dune 2?
C'est une bonne question, mais je dirais que j'ai un faible pour le système Atmos, c'est-à-dire Dolby Atmos, qui est on a mixé le film avec ce système, disons que le mixage initial et en Atmos. Donc, et après ça, on décante pour les autres versions à partir du Atmos. C'est un système qui permet d'avoir une très, très grande précision dans l'intimité tout en conservant l'ampleur, ce qui fonctionne très bien et qui est parfait pour Dune. J'aime beaucoup aussi le son IMAX qui est un peu plus musclé, mais qui a le même effet enveloppant, le même effet immersif. Si on parle écran, c'est sûr que IMAX, bon, ben c'est le film a été conçu pour l'IMAX visuellement. Donc, je dirais que la meilleure expérience qu'on peut avoir, finalement, je dirais que ce serait en IMAX.
Voilà, vous avez entendu évidemment Denis Villeneuve. C'est un grand honneur d'avoir pu l'avoir à notre micro. Merci encore à toute l'équipe de Warner qui a permis ceci. Et vous aurez évidemment le loisir de découvrir l'entretien dans son intégralité, peut-être au moment même d'ailleurs où vous écoutez ce podcast. Il est temps maintenant de passer sur les chiffres France. Charlotte, je te laisse la parole après un petit jingle.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Alors Charlotte, est-ce que du côté du box-office France, les choses ont un peu bougé? Est-ce que c'est plus joyeux que la semaine dernière?
Effectivement, c'est plus joyeux que la semaine dernière. Après, c'est pas non plus incroyablement plus joyeux puisqu'on est 19% au-dessus de la semaine dernière en termes de marché. Février est pourtant traditionnellement l'un des mois qui va le plus marcher, mais il manque effectivement de très grosses propositions et ça se ressent un petit peu. Malgré ça, on a une très grosse proposition qui se démarque bien largement et qui arrive en top de ce box-office. C'est Bob Marley One Love, puisqu'il va cumuler 655 000 entrées à l'issue de son premier week-end, dont 52 000 entrées en avant-première. Donc c'est un très très beau démarrage pour Bob Marley. Je dirais mieux, c'est le meilleur démarrage pour 2024. Il se place devant donc Cocorico, qui avait ouvert avec 488 000 entrées. C'est vrai que ce premier week-end se situe dans la partie un peu supérieure quand même des week-ends d'ouverture de biopics qui sont similaires. Typiquement, il est 30% en dessous de Bohemian Rhapsody, mais qui lui avait fait un chemin assez incroyable puisqu'il avait ouvert à 937 000 entrées.
Ouais. Alors juste petite précision, effectivement, sur le jour d'ouverture, il est tutoyé quasiment Bohemian. Sur le week-end, il est, comme tu dis, en dessous. On peut quand même dire que le week-end n'a pas été extraordinaire pour le marché français, au sens où samedi, dimanche ont été certainement impactés à la fois par des grèves du côté de la SNCF et aussi par des températures très clémentes qui ont dissuadé beaucoup de spectateurs d'aller dans les salles. Il y a toujours cette appréhension, on le rappelle chaque année, du premier week-end où les températures commencent à être clémentes. On ne pensait pas que ça arriverait à la mi-février, mais c'est laissé un peu arriver là, et c'est vrai que ça a impacté ça.
Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il fait un très bon démarrage. Il se rapproche globalement de Napoléon, qui lui démarrait 2% au-dessus, puisqu'il démarrait avec 660 000 entrées. Il avait fini à plus de 1,5 million, 1,6 million, je crois. Et donc on peut imaginer une fin de vie aux alentours de 1,8 million, peut-être 2 millions à voir, parce que là c'est vrai qu'il est poussé par ce mois de février, par les vacances, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Arrive en dessous, en deuxième position, Cocorico, toujours. Hein, donc petit pic de rappel de la popularité de Christian Clavier et Didier Bourdon.
La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il allait battre Maison de Retraite pour sa deuxième semaine, alors que Maison de Retraite sortait. Et c'est vrai, comme tu le soulignes, qu'il a résisté à l'arrivée de Maison de Retraite 2.
Exactement, ouais, il a complètement résisté à la Maison de Retraite 2, et c'est vrai que c'est le deuxième succès d'affilée pour Didier Bourdon, parce qu'après Chasse Gardée, qui lui avait atteint son 1,8 million d'entrées, ici Cocorico ajoute donc 300 000 entrées à son cumul, il atteint 890 000 entrées, il est effectivement poussé par les vacances, et on peut imaginer une fin de vie à 1,5 million d'entrées à peu près. Oui, dis-moi Max.
Ouais, un super score pour Cocorico, mais on peut noter quand même qu'il y a une chute de 38% malgré des vacances qui démarrent, et du coup on aurait pu attendre mieux. On aurait pu attendre mieux également pour Maison de Retraite, et c'est bien d'être le leader sur le marché des comédies, mais la chute est un petit peu dure sur un marché de vacances, je crois.
Olivier, vous voulez réagir?
Non, juste préciser, on était en vacances à Paris.
Oui.
Et ce sont des films qui ont un fort coefficient, donc on peut penser qu'avec les vacances commençant plus sur la province, ils auront une meilleure tenue.
Tout à fait. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce qui venait d'être dit, qu'on peut lire les chiffres, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de façon très différente. Soit effectivement se dire c'est super de faire 306 000 en deuxième semaine, soit par rapport au premier week-end, de se dire qu'il y a quand même moins 37%. Et aussi que c'est devant le troisième du box-office, qui était attendu.
Absolument,
peut-être plus haut.
Absolument, oui, forcément, hein, ils se sont tous les deux un peu tirés la bourre, puisque Maison de Retraite 2 est sorti. C'est vrai que le premier, il avait eu un chemin assez incroyable, puisqu'il avait fait plus de 2 millions d'entrées. Donc on attendait avec impatience ce deuxième opus pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Il démarre avec 441 000 entrées, mais attention, plus de 136 000 entrées en avant-première. Donc je pense qu'il y a eu une large tournée avec évidemment Kev Adams, et donc c'est vrai que ces entrées sont largement boostées par cette tournée-là. Donc c'est exactement la même date de démarrage que Maison de Retraite 1, donc il se situe 21% en dessous de ce premier opus, mais 38% en dessous si on retire les avant-premières. Le film a coûté cher, donc on n'est pas sûr qu'il va atteindre le million d'entrées. À voir, mais ça semble un tout petit peu compliqué, bien que 441 000 entrées en ouverture. On peut imaginer le million rapidement, mais voilà, c'est quand même une question qui se pose.
Ah ouais, moi je suis assez confiant sur le million. Alors là, pour le coup, c'est plus 1,5 million, 2 millions où j'ai plus de doutes, mais ouais. Mais bon, on verra.
Sur les chiffres, en tout cas, on va voir. Mais c'est vrai que ça doit être un petit peu frustrant d'être en dessous du premier volet qui avait fini à 2,2 millions et qui était un vrai succès surprise. Faut s'en rappeler quand il est sorti. Qui avait aussi bénéficié d'une actualité qui était toute particulière. On était dans le scandale Orpea, des scandales sur les EHPAD et les maisons de retraite. Et bizarrement, on a eu un peu l'impression que cette actualité glauque et tragique a profité au film qui parlait de ce sujet d'une façon beaucoup plus légère et amusante.
Malgré tout, je tiens quand même à se dire aussi que pour une comédie française, on a deux comédies françaises consécutives qui marchent très fort, trois si on ajoute Chasse Gardée sortie toute fin d'année dernière, c'était pas le cas l'année dernière non plus.
Quatre si on ajoute Les Dégâts.
Voilà, mais donc c'était pas du tout ça l'an passé. Mais voilà, le débat est ouvert, n'hésitez pas ici à intervenir si vous voulez. En tout cas, c'est plutôt un terrain favorable, je trouve, à la comédie française, parce que 300 000 entrées en démarrage sur une comédie, ça reste un excellent score, même si une petite déception pointe. Voilà.
Exactement. Bon, ensuite, on a en quatrième position la sortie de Gaumont, Chien et Chat, voilà, qui démarre avec 243 000 entrées. Il est au-dessus de Clifford qui lui démarrait à 153 000 entrées pour une fin de carrière à 700 000 entrées, mais très très loin de Paddington hein, qui lui démarrait à 517 000 entrées pour finir à plus de 2 millions, un tout petit peu en dessous de 3 millions, même 2,8 millions. Donc on peut espérer une fin de vie à 700, 800 000 entrées, mais c'est vrai que pour un film avec un budget aussi conséquent, je crois que c'était 19 millions d'euros de budget si je ne me trompe pas, c'est évident que ça ne va pas malheureusement suffire et que c'est quand même une déception, je pense, un petit peu pour Gaumont.
Alors après, il faut aussi préciser que c'est un film familial et qu'il n'y a pas trop de concurrence sur le terrain familial en ce moment. Et donc, il faut se méfier. Hein. On l'avait vu déjà ici à cette antenne que parfois certaines prédictions suite au premier week-end se révélaient erronées et inférieures à la réalité. Donc, tout est encore possible. Ça dépend, comme vous le disiez Olivier tout à l'heure aussi, du marché des vacances qui bat son plein et va se renforcer jusqu'au week-end prochain qui sera le seul moment où les trois zones seront en vacances. Voilà.
Exactement, donc affaire à suivre également sur Chien et Chat. Et ensuite on a, comme Max a pu le souligner sur le marché international, Madame Web qui est évidemment une déception. Hein. C'est clairement la fin des films de super-héros d'une certaine manière en ce moment. En tout cas, c'est un vrai déclin. Madame Web est vraiment très faible. Il ouvre avec 172 000 entrées. C'est en dessous de Blue Beetle, de Shazam 2, de Morbius ou encore Marvels. Et ça semble très 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 compliqué pour Sony d'aller franchir les 600 000 entrées en tout cas. Donc vraie déception et on voit bien que les films de super-héros plaisent moins en tout cas en ce moment. À voir ce que ça va donner au fil de l'année, mais est-ce que c'est la fin de Marvel ou pas, Max? On se pose la question.
Vu les scores du teaser de Deadpool,
c'est la fin du monde.
C'est la fin. Oui, c'est vrai. Deadpool va évidemment, je pense, remonter un petit peu tout ça.
Ouais, bah voilà, comme tu dis, 2023, c'était l'année catastrophe pour les films de super-héros. Et il y a Spider-Man Across the Spider-Verse qui fait plus du double du précédent volet. Et il y a Les Gardiens de la Galaxie 3 qui fait plus de 3 millions d'entrées. Et il y a Aquaman 2 qui fait plus de 2 millions. Et en même temps, il y a des chèques. Donc là, c'est la fin de l'automaticité du million, million 5 pour les films de super-héros, ça c'est clair. Par contre, on va voir. Peut-être que les entrées seront plus concentrées et plus fortes sur les films qui arrivent à rassembler.
Voilà, comme quoi, une fois de plus, hein, il faut toujours relativiser ces interprétations et ne pas tirer de conclusions trop hâtives. D'ailleurs, un des films qui perd le moins sur cette semaine, c'est à la 9e place, Charlotte, le film dont on parlait tout à l'heure, Tout sauf toi, qui n'était pas du tout à ce niveau-là quand Évidemment. On avait parlé la première semaine.
C'est clair, effectivement, la première semaine, j'avais déjà parlé de cette trend TikTok qui continue effectivement à faire son chemin. Le film perd 6%, donc c'est la baisse, une des baisses les plus petites de la semaine, baisse la plus petite.
Voilà. 427 000 au cumul.
427 000 au cumul. En plus, il y a eu la Saint-Valentin, donc forcément, ça a poussé encore plus la trend TikTok et les jeunes amoureux allaient regarder le film. Pas mal de complets aussi, de ce que m'a pu dire Marlène, par exemple, tu es allée voir le film et toi, c'était complet dans ta
Moi,
salle.
C'était complet, c'était un samedi soir et les gens ont applaudi comme si c'était un concert. Donc je me suis demandé, mais que se passe-t-il? Je n'avais pas vécu de séance de cinéma comme ça depuis quelques temps. Voilà, c'était sympathique.
Le film fait moins 6% ou moins 7% sur le marché global. Il a fait plus 100% sur le mercredi de la Saint-Valentin par rapport au mercredi précédent. Donc c'est vraiment une carrière atypique. Quand il est sorti, on disait, oh, 200 000 au cumul maximum. Là, il est à 480... Je ne sais plus combien.
427.
Il a dépassé Ticket to Paradise en France également. Et c'est le plus gros succès pour une comédie romantique US depuis le Covid. Donc on va voir où ça finit.
Très bon film, feel good.
Alors, à noter également la zone d'intérêt et Dali qui reste respectivement à la 7e et 8e place côté arrêt essai avec des baisses un peu différentes. Moins 24% pour la zone d'intérêt qui donc se maintient et passe les 500 000 entrées. Je ne sais pas si vous imaginez pour ce film qui a reçu, on le rappelle, le Grand Prix à Cannes, passer les 500 000 entrées, c'est tout à fait exceptionnel. Dali, lui arrive à 300 000 entrées, à 299 000 au dernier pointage, mais là aujourd'hui il va aller passer les 300 000. Là aussi, c'est
déjà passé d'Alion, pense. Hein.
Bah en tout cas, c'est vraiment un très très beau chiffre pour Quentin Dupieux à ce niveau-là même de la carrière du film en seulement deuxième semaine, c'est son meilleur résultat. On disait
c'est déjà son troisième succès fin de vie.
À ce niveau-là, voilà, fin de vie, mais à ce niveau-là, c'est là aussi assez exceptionnel pour lui. On n'a pas cité Le Dernier Jaguar qui en deuxième semaine fait moins 19%. Charlotte, tu voulais dire quelque chose sur Le Dernier Jaguar peut-être ou
Le Dernier Jaguar, il est en dessous de Mia et le Lion Blanc, hein, et puis légèrement au-dessus du Loup et le Lion. Il fait donc 344 000 entrées. Voilà,
En tout cas, il existe, il résiste grâce aux vacances. Boosté également Le Royaume de Kensuke, qui lui fait plus 10%, distribué par Le Pacte, hein, qui arrive à 115 000 entrées. On a parlé de Vivant la semaine dernière au Neuvheures des Halles avec Alain Attal. Lui démarre à 42 000. Démarrage correct, sans non plus être formidable, avec 226 de moyenne par copie, mais ça reste convenable. Il est à 14e place. Mais c'est vrai qu'un de ceux qui perd beaucoup, c'est quand même Argyle, dont on avait parlé, qui n'est qu'à 400 000. Qui aurait pu prédire qu'il ferait en trois semaines moins que la zone d'intérêt qui, lui, passe les 500 000 ? C'est quand même assez fou, quoi.
Bah, peu de gens auraient pu le prédire, pour le coup. Oui. C'est une déconvenue, hein, pour le film de Matthew Vaughn, qui va finir avec probablement entre 400 et 550 000 entrées fin de vie. Donc ouais, c'est décevant, mais bon. On l'a vu dès le démarrage que c'était mou et le film chute fort, le bouche à oreille n'est pas vraiment là. Donc.
À signaler également le bon démarrage d'un film qui était leader au Hall mercredi dernier, Sans Jamais Nous Connaître, distribué par Disney, qui a une moyenne par copie égale presque à celle de Cocorico, même s'il y en avait beaucoup moins, évidemment. 109 copies, 503 de moyenne et 57 829 entrées pour l'instant. C'est un très beau démarrage pour ce film.
Pour les fans de Paul Mescal, il fait deux fois plus qu'Afterson au démarrage.
Et voilà, tout à fait. Aussi à noter, parmi les performances de ce box-office dont on parle peut-être pas assez, le documentaire La Ferme des Bertrands, distribué par Jour de Fête, avec un sujet forcément d'actualité, hein, ce sera le Salon de l'Agriculture dans quelques jours. Néanmoins, La Ferme des Bertrands qui passe les 100 000 entrées, 132 000 entrées au total pour l'instant, pour un documentaire, là aussi c'est tout simplement exceptionnel. On n'avait peut-être pas aussi assez insisté sur Eman, le film japonais distribué par Arthouse, qui arrive, bon an mal an, à 97 000 entrées. Là aussi, en trois semaines seulement, c'est une performance, hein, pour un film qui là n'est que, entre guillemets, sur 159 copies. Donc voilà, il y a toujours des petites choses comme ça à aller chercher dans ce box-office qui recèle finalement de petites surprises, mais aussi dans les surprises, la continuation à noter de Migration qui n'en finit pas de faire des entrées, puisqu'il cumule encore 26 000 entrées sur le week-end pour un cumul à 1 556 000 entrées à date. Et puis bien sûr, sorti encore plus lointain dans le temps, Anatomie d'une chute de Justine Triet, dont on ne cesse de parler, qui ne chute que de 18%, 36 737 entrées et 1 583 000 entrées au compteur. Et évidemment, on va peut-être en reparler à la fin de la semaine avec la cérémonie des Césars qui s'annonce. Tu voulais préciser quelque chose ?
Juste, je ne sais pas si tu as parlé de Léo, la fabuleuse
non,
histoire de Léonard.
Non, je n'ai pas parlé.
Qui fait plus 8% cette semaine.
Voilà, donc, qui profite en fait, du manque d'offres côté animation. Et...
Exactement, et des vacances scolaire. Ouais. Et on note, je ne sais pas si on parle de ressortie ou de sortie de Alerte Rouge, le film Disney qui était sorti uniquement sur Disney Plus il y a un ou deux ans, qui a eu bénéficié d'une sortie exceptionnelle cette semaine et qui fait à peu près 11 000 entrées, je crois.
Olivier, vous vouliez peut-être réagir sur ce marché. Qu'est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire ?
Non, on voit qu'il y a quand même manifestement et heureusement un boost lié aux vacances, hein, c'est clair. Ouais. Et encore une fois, et je pense qu'il va s'accentuer puisqu'on rentre sur les vacances en province, comme on le disait tout à l'heure. Mais on est quand même sur une offre qui est variée, qui est de qualité, mais qui est je dirais, un peu...
Incomplète.
Incomplète.
Ouais. Ouais. On a ce sentiment
de... moins forte que certaines années. Oui, effectivement. On n'est pas encore revenu à des vacances de février avec des très gros blockbusters français ou des très gros blockbusters américains, et on le sent bien.
Ou des très gros films d'animation aussi.
Oui, ouais. Donc c'est vrai que... Et on ne le dira jamais assez. Moi, je... Revenir au sujet, par exemple, des super-héros, parce que moi, je ne pense pas que ni Marvel, ni personne ne soit fini. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de fatigue de films des super-héros. Il y a une fatigue des mauvais films de super-héros. Et je parle en général, hein, je ne parle pas des sorties récentes, parce que nous-mêmes, on a eu deux gros échecs l'an dernier. Bon, The Flash, ça nous a un peu surpris, on l'attendait pas, on pensait qu'il ferait un peu plus, on pensait que le film avait quand même des qualités, mais le public n'en a pas voulu. Je pense qu'on est au bout peut-être d'un cycle, comme ça arrive souvent dans le cinéma, et que les studios savent généralement se réadapter, faire d'autres choses, et on va revoir des films de super-héros différents, probablement. Nous-mêmes, on est en plein... reconstruction de notre offre d'ici, donc qui commencera avec le film de James Gunn l'an prochain, le nouveau Superman de James Gunn, qui va être un tout nouvel univers. À côté de ça, on a Joker, qui est un peu périphérique de l'univers d'ici. On va avoir le Batman 2 de Matt Reeves, qui est aussi quelque chose un peu à part. Donc, et on voit que ces films-là attirent beaucoup de public. Donc quand les films sont de qualité, avec des grands auteurs derrière, il y aura du public. Je pense que Deadpool va être un énorme, en tout cas la bande-annonce qu'on voit donne beaucoup envie, va être un énorme succès cet été. Donc tout ça pour dire, on est comme toujours, et on s'en souvient toujours régulièrement, un marché de l'offre, et c'est l'offre qui attire le public. Et je dirais peut-être encore plus aujourd'hui que dans le passé, puisque les gens viennent moins au cinéma que pour voir un film spécifiquement. Avant, on allait au cinéma. Aujourd'hui, on vient voir un film. Voilà. Et donc, il faut que nous, on soit compétitifs en termes d'offres, et qu'après, on fasse le bon marketing, mais ça, on sait le faire.
Alors, vous parliez de l'offre, et bien ça tombe très bien pour ma transition, puisque quelle offre pour la semaine à venir ? 14 films seront à l'affiche cette semaine, et il y avait le sondage Twitter, Charlotte. Alors, quel était-il cette semaine ?
Exactement, on avait un sondage Twitter donc avec 4 propositions comme on fait chaque semaine, à savoir une ville, la sortie de SND avec Anthony Hopkins, l'Empire, la sortie d'ARP, les Chèvres, la sortie de Pâté, et enfin le successeur de Haut et Court, et se place en tête l'Empire avec 48% d'intention, puis en dessous on a le successeur avec 25%, puis une vie avec 19%, et enfin les Chèvres avec 8%. Mais donc de nombreuses autres propositions, Aurélien.
Exactement, mais c'est intéressant ce sondage, parce que c'est vrai que sur cette semaine, c'est assez ouvert, je dois avouer, en termes d'envie de cinéma. On avait un sondage plutôt arrêt-essai avec L'Empire et Le Successeur. On voit que L'Empire intrigue, ce film de Bruno Dumont porté par Fabrice Luchini et Camille Cotin. Le Successeur, on le rappelle, c'est le nouveau film de Xavier Legrand qui avait fait Jusqu'à la garde. Là aussi, qui est très, très attendu, avec Marc-André Gondin, qui n'avait pas fait de film depuis, en tout cas sorti en France depuis près d'une dizaine d'années. Les Chèvres, c'est le nouveau film de Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Il n'y a pas eu d'avant-première. Bon, on verra ce que ça donne. C'est en tout cas le gros film sorti par Pathé pendant ses vacances. Une vie, c'est SND qui en a montré beaucoup déjà justement lors de cette French Convention et qui a, je pense, de grosses ambitions dessus. Film tiré d'une histoire vraie porté par Anthony Hopkins et Helena Bonham Carter, film britannique. Et puis il y a aussi un film distribué par KMBO, Le Royaume des Abysses, film d'animation destiné plutôt à un public ado et adulte.
Film d'animation chinois.
Film d'animation chinois. À ses côtés, un autre film d'animation d'ailleurs, mon cher Max.
Japonais cette fois.
Voilà, et tu peux peut-être nous dire un mot, est-ce que c'est une sortie normale ou
tu
pas?
Tu veux que je dise le titre parce que tu l'as pas.
Exactement,
déjà.
Merci.
C'est Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en route vers l'entraînement des piliers.
On est obligé de tout dire quand on passe en caisse ou
je pense que si on dit Demon Slayer, sur l'appli, ça marche. Mais par contre, quand on est exploitant, si on le met, il faut bien mettre toutes les infos. C'est donc Demon Slayer, c'est une série d'animation japonaise. C'est un shonen, c'est une série pour ados. Et là, il s'agit d'un programme qui rassemble le dernier épisode de la dernière saison sortie de la série et le premier épisode de la prochaine saison, non diffusée encore. Et donc, c'est ces deux épisodes-là qui sont rassemblés pour une sortie événementielle sur 500 séances uniquement samedi et dimanche. C'était le même type de programme que En route vers le village des forgerons qui était sorti il y a un an.
Voilà, faut vraiment être spécialisé, mais en tout cas, ça avait fait des entrées, je crois.
100 000 entrées.
Quand même, 100 000 entrées, donc à voir si ça renouvelle cette belle performance. Au fil des saisons, c'est un nouveau film distribué par UGC avec Catherine Deneuve en rôle principal. Sleep, c'est un film d'horreur du côté de The Jokers. Et puis après, on a Universal Theory du côté de UFO. Et puis Nour Film qui sort Double Foyer, JHR Bye Bye Tibériade, Tandem Les Derniers Hommes. World Cup, c'est chez Capricci, Le Pion du Général chez Destiny, et les ressorties de deux grands films, à savoir Le Nom de la Rose en version restaurée, qui a fait des entrées magnifiques dans le cadre d'une avant-première pâtée dans toute la France, c'était il y a quelques jours. C'est Les Acacias qui ressort le film, et Une histoire vraie de David Lynch chez Carlotel a aussi ressorti.
Voilà un film américain.
Voilà, ressorti très attendu, une histoire vraie qui avait été initialement présentée à Cannes. Je crois qu'on a été assez complet. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose ici? Sinon, dire et redire que Dune partie 2 arrive dans quelques jours et que nous avons eu la chance de rencontrer son réalisateur, Denis Villeneuve. Écoutez également son podcast. Merci en tout cas à toute l'équipe de Warner d'avoir été là pour cet enregistrement jusque tardivement. Merci beaucoup, Olivier Snanouj. Et on vous souhaite évidemment à tous le meilleur pour cette année 2024 et pour la carrière de Dune partie 2. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel Opening Weekend. Merci à tous et à bientôt.
Et vive le cinéma.